Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut meuf, je te sers un truc?
Je veux bien un petit café, s'il te plaît.
J'ai des bières, ça vous va?
Oh, wow. À la vôtre? À la sexualidad?
À la liberté?
Coucou les filles!
Coucou Lisa!
Vous allez bien?
Oui, ça va, et
ça va, toi?
On se retrouve pour un nouvel épisode avec une invitée spéciale qui n'est autre que...
Juliette Kitsch!
Pardon, j'ai donné le micro à la mauvaise personne! Dites-le en même temps!
Juliette Kitsch!
Juju, déjà, merci de venir aujourd'hui sur le podcast de Tard l'époque! On est très contente de t'avoir. Tu te sens comment? Est-ce que t'es un peu anxieuse? Est-ce que t'es un peu stressée? Est-ce qu'au contraire, t'es giga à l'aise?
Pas du tout stressée ni anxieuse, non, j'avoue que le sujet a priori va pas être trop compliqué à aborder, donc, donc ça va.
Ok, est-ce que avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter, nous dire ton âge, nous donner ton signe astro et oui. Ta situation financière?
Est-ce que tu gagnes de l'argent?
À peu près combien?
Combien et combien par mois?
Donc je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, je suis poisson. De mars et c'est hyper important
le poisson
c'est
de
vrai
mars.
Bah le poisson de février c'est pas le même. Et je suis du coup en couple depuis 12 ans et mariée depuis 2 ans.
La vache. Donc aujourd'hui les petits amigos, les petites libellules, finalement on vous a demandé sur Instagram, allez nous suivre.
Tard l'époque.
Exactement. Allez nous suivre puisque c'est là qu'on vous pose plein de petites questions. Et donc aujourd'hui on arrive avec l'épisode 2 de On Bitch, On Binge. Et pour cet épisode 2 nous vous avons demandé des questions en rapport avec la sexualidad, comme on le disait
en espagnol.
Claro.
Disclaimer, les libellules, nous ne sommes ni des professionnels, ni des médecins, ni des psychologues, rien de tout ça. On va vous partager nos expériences. On est célibataire, on ne connaît pas la vie entière sur la sexualité, sur tout ça.
Rien.
On est juste là.
Quand tu es marié, tu deviens, t'as un statut qui te dit genre, non,
toi, tu connais
le sexe.
Toi, le sexe, c'est ta truc. C'est ta truc. Connais son dossier. Voilà. Donc, on est comme vous, on se pose plein de questions et c'est pour ça qu'on a invité Juliette.
C'est toujours bien de se diriger vers des professionnels quand on a vraiment des gros soucis.
C'est exactement ça.
J'aimerais que ma psy aussi est sexologue.
Allez voir des psys, des sexologues, des dentistes, des podologues, occupez-vous de votre corps. Voilà, merci à tous.
On a parlé un petit peu avec Pauline et on s'est dit, on a une première question un peu pour introduire le sujet. Juliette, c'est quand la dernière fois que t'as niqué? Je rigole, pardon.
T'imagines?
Ça me ferait rire. Non, c'est pas ça.
D'accord.
Vous, c'est quoi votre rapport à la sexualité? Enfin, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce sujet-là? Mm-hmm. Comment vous positionnez par rapport au grand sujet qu'est la sexualidad?
Ok, moi d'abord.
Oui. Priorité à l'invité.
Priorité à l'invité, très bien. Moi, c'est un sujet qui ne m'a jamais posé problème. Mm-hmm. C'est un truc que j'ai découvert très jeune, voire carrément petite fille. Parce que c'est des choses quand t'explores et tout, voilà, tu peux explorer ton corps et tout, donc c'est toujours un truc qui a fait partie de ma vie, pas rapidement, comment dire, ça a pas été tout de suite, comment dire, traduit par des relations avec les autres. Mm. C'était beaucoup de relations avec juste moi-même et j'avais aussi la chance, j'ai toujours d'ailleurs la chance d'avoir des parents qui m'ont aussi expliqué en fait comment ça fonctionnait. Bon, on est d'accord, pas le max de détails, mais si j'avais des questions, je savais que je pouvais me tourner. Bon, c'était plus ma mère qui était ma référente, mais voilà, ça n'a jamais été un tabou.
Il n'y a jamais eu de malaise avec ta mère, justement, quand vous en parliez?
Disons que c'est un peu marrant, parce qu'effectivement, je pense qu'elle n'était pas complètement à l'aise avec le fait d'en parler, mais elle le faisait quand même.
Ok.
Enfin, elle était toujours un petit peu gênée, mais bon, j'imagine que c'est normal, je suis quand même son enfant. Découvrir que son enfant a une sexualité, c'est quand même, à mon avis, un espèce de choc. Donc non, ça n'a jamais... moi, ça a toujours été en plus un sujet qui m'intéressait. Je sais plus... Si je me demande si c'était pas toi qui disais ça dans une de nos conversations, c'est les gens qui disent le plus qui en font le moins. Ça a été beaucoup moi au lycée.
C'est vrai. C'est-à-dire
que vraiment, je ne parlais que de ça. Mais je ne faisais rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois où j'ai fait un petit truc et genre, il y avait un mec qui m'avait touché les seins et j'étais mais genre... Enfin, j'étais genre choquée.
C'est le truc.
Choquée. Et puis même, c'était, je voulais, enfin, c'est pas que je voulais pas que ça arrive, mais enfin, j'étais là genre non. Enfin, ouais. Voilà. Voilà.
Ok. Okay.
Et toi, Pauline ?
Moi, j'ai un rapport très encore en construction avec ma sexualité. C'est-à-dire que on me l'a jamais vraiment expliqué. Ma mère, bien sûr, m'a expliqué comment se protéger, le consentement, les bases. Mais après, sur le fait de la sexualité, notamment féminine. J'ai beaucoup exploré toute seule, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai appris un peu en lisant des trucs et tout, genre à l'époque c'était quoi, c'était le dico défi, des trucs comme ça.
Oh la vache.
C'était très... ne relisez pas ça, enfin franchement, ne l'allez pas.
Relisez-le, mais juste pour avoir une idée de à quoi ressemblait l'époque à laquelle on vivait ça, quoi.
Bah, si jamais, si ça peut vous intéresser, sur Insta, il y a une très nana super sympa qui s'appelle Anna Toumazov, qui a sorti un livre qui reprend un peu le principe du dico défi avec plein de définitions de plein de trucs et de tous les termes, etc. Et je recommande vraiment à toutes les meufs, jeunes, moins jeunes, plus vieilles, d'avoir ce livre. Voilà, ça c'est le truc à part. Et donc, moi non, je me suis posé plein de questions et j'ai appris un peu avec mes expériences à découvrir la sexualité. Je suis très pudique. Sur tout, sur mes émotions surtout. Et du coup la sexualité, je fais pas partie des femmes qui réussissent à en parler sur un comptoir, à dire ouais ça il m'est arrivé ça, parce que
sur
c'est...
un comptoir,
non mais sur un...
comme ça
j'imagine au avec... du coin
ouais. Mais non, mais
vraiment la beuteux.
Non mais c'est ça, c'est... Enfin, pour moi c'est une façon de me dévoiler, de parler de ça, et je suis encore très, et je le serai toujours parce qu'au final c'est dans mon tempérament, très pudique sur ça. Donc j'apprends à me livrer parce que je me rends compte que ça aide aussi d'en parler avec d'autres femmes, parce que parfois on se pose plein de questions, on n'a pas de réponse, ou il y a plein de choses qu'on sait pas. Donc j'apprends en lisant des bouquins, en suivant des meufs sur Insta et tout, je me pose des questions. Mais c'est vrai que je fais plus partie de la team, je racontais pas ma sexualité, même à mes potes. Enfin, j'avais pas de potes vraiment qui étaient très ouvertes sur ça et à qui je pouvais raconter mes peurs, mes doutes, mes questionnements. Et ça fait que très peu de temps que rien, que parler de masturbation, de sextoy, etc., c'est rentré dans ma vie il y a très très peu de temps dans les conversations que je peux avoir avec les gens autour de moi.
Ouais.
Donc voilà. Et toi, Lisa ?
Bref, mes parents m'en ont pas du tout parlé. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été relativement à l'aise à parler sexualité, etc., comme je l'ai fait assez jeune. Ouais, j'étais mise dans le bain relativement jeune, et donc j'avais certains groupes de potes où, elle, tu vois, ça allait, on pouvait en parler même de nos corps, enfin justement de tous les changements que tu peux avoir, où tu paniques et toi t'es toute seule de ton côté, tu dis oula, je suis peut-être bizarre, personne à ça, machin. J'en ai parlé relativement tôt avec des potes. À l'inverse, j'avais d'autres copines où elles étaient vraiment un non catégorique, j'ai pas envie d'en parler.
Moi aussi, j'en avais,
Et au final, 3 ans après, enfin non, 3 ans d'aujourd'hui, tu vois, elle vient de me voir, au fait, est-ce que toi t'as déjà vu ça, machin, t'es ah, bah gros, ça fait un moment, tu vois.
Il n'y a pas de support en fait, je trouve, pour les jeunes filles sur la sexualité, c'est qu'on est encore dans un truc un peu qui idéalise la première fois, et je pense qu'on découvre toute la sexualité sur le tas. Et il n'y a pas vraiment de contenu, de podcast, enfin là nous on essaye avec nos petits moyens, mais il y a de livres, de trucs, de comptes Insta à suivre. Enfin, moi je me revois quand j'avais 14-15 ans, j'avais aucune idée de ce qu'allait à quoi allait ressembler ma première fois, ce que c'était, même limite le consentement, les positions, avoir mal, un utérus rétroversé, enfin des notions que t'apprends, t'es là, t'es en mode, ah ça existe.
Alors, première question, c'est une jeune fille qui nous a envoyé un message et qui nous a raconté un peu une story time, donc on a essayé de raccourcir le truc, où en gros elle nous dit que son ex il a recontacté, ça fait 4 ans qu'ils sont plus ensemble, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, ça s'est pas très bien fini, et là il revient la voir en ce moment, et elle se pose la question qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est que pour du cul, est-ce que potentiellement il peut se repasser quelque chose, elle est un peu paumée. Quel est, vous, votre point de vue sur cette question, les ex qui reviennent, pour qui, pourquoi ?
Moi je suis vachement retournée vers mon ex. Ça a été très tabou un moment parce que je perdais beaucoup confiance en moi en le faisant, mais il y avait une envie en moi qui retournait tout le temps vers lui, et en fait je pense qu'il faut te poser et te dire pourquoi je veux retourner vers lui. Est-ce que c'est parce que je m'ennuie là, est-ce que c'est de la dépendance affective, est-ce que je veux juste recoucher avec lui, ce qui est totalement ok, mais derrière si tu penses que lui il est pas prêt à s'engager, etc., mais d'un autre côté il faut se dire que si c'est terminé, il y a aussi longtemps, il y a plein de garçons sympas sur partout, tu vois. Et souvent, de moi, mon expérience retournée vers ses ex, c'est jamais la bonne chose à faire, parce que si ça s'est terminé, c'est une bonne raison. Et là, de ce que tu nous as dit, il n'est pas en train de revenir te dire « je t'aime trop, viens, on se remet ensemble ». C'est plus en mode « viens, on couche ensemble et basta ». Et franchement, on les connaît, ces histoires-là, à la fin, tu pleures.
Oui.
Genre, vraiment.
Tu pleures tout à fait. Je pense qu'il y a aussi un truc de... je pense que tu dois sûrement être tentée de revenir aussi vers lui parce que c'est quelqu'un qui te connaît, tu le connais, il n'y a pas de... À la fois, il n'y a pas de surprise, mais aussi, c'est très réconfortant, en fait, de retourner vers un ex. Parce que, si tu disais que c'était il y a 4 ans, je ne sais pas quel âge tu avais il y a 4 ans, mais ça se trouve aussi bien, c'est le premier ou un des premiers, et puis ça se trouve aussi, le sexe était génial avec lui, et potentiellement, tu as envie de revivre ça. Après, je pense que, comme tu disais, Pauline, en gros, si lui il revient vers toi pour du sexe, à la limite, honnêtement, faudrait presque lui poser la question, en fait. Je sais pas s'il serait capable de répondre de manière authentique et sincère, mais de toute façon, si on veut avoir un minimum d'idées de ce que les gens veulent ou cherchent, le meilleur moyen de le faire, c'est quand même de communiquer avec eux et lui dire, voilà, moi de mon côté, j'attends ça de toi, est-ce que toi t'es capable de le faire, ou est-ce que tu veux juste qu'on couche ensemble. Et à ce moment là il y aura aussi un peu une idée de détecteur de bullshit, en gros, c'est si jamais si ça s'est terminé parce que c'était quelqu'un qui mentait ou que tu sens qu'il est pas sincère avec toi, honnêtement, te mets pas dans une situation où tu pourras regretter après, où tu diras non mais c'est pas grave, moi aussi je veux ça parce qu'on l'a tout fait, genre non on est trop cool, moi aussi je suis trop une meuf trop détachée, franchement je suis pas plus de tête.
C'est l'histoire que j'ai eu avec mon ex.
C'était pas genre, moi je veux pas ça.
Moi aussi j'ai fait ça, enfin non j'ai pas fait ça, mais mais voilà, pour avoir été aussi une des personnes qui recouche avec ses ex, ça m'est déjà arrivé, pour une raison ou une autre, parce qu'effectivement il y a ce truc un peu réconfortant où tu sais sur qui tu tombes, ça veut pas dire que c'est bien.
Et puis surtout, est-ce que ce mec te juge à ta juste valeur, genre est-ce que tu sens qu'il est vraiment en train d'essayer de revenir vers toi, ou est-ce qu'il revient parce qu'il pense que c'est facile et que t'es acquise, et est-ce qu'il comble vraiment un truc où il te voit comme une petite étoile, ou juste il retourne vers toi parce que t'es son ex. Et ça c'est horrible, parce que parfois il y a rien de pire que quelqu'un qui revient et qui repart en ayant l'impression d'être un gros truc de passage ou un paillasson entre deux, les termes sont durs, mais c'est la vérité, genre un mec qui vient, qui te sous-estime et qui repart, après c'est toi qui perds confiance en toi, et c'est pas le but.
Je pense qu'il y a un truc aussi de on s'ennuie tous à un moment donné,
tout à fait,
et genre souvent quand t'as justement ton ex qui revient, ou toi t'as envie de retourner vers ton ex, c'était dans un passage à vide de ta vie, et que justement t'es là, tu refais un peu, tu sais, c'est comme quand tu relis un bouquin que t'as déjà lu, t'es là, en vrai je connais déjà l'histoire, mais vas-y je vais les rouvrir, je vais le relire une petite fois.
Parce que c'est agréable, ou parce que c'est ça. Ou parce que.
Mais souvent, ça parce répond que tu te fais chier, effectivement. Je trouve,
Donc, voilà. Ça peut être le cas, ouais.
Est-ce que c'est normal de pas aimer certaines pratiques cunnilingus ou fellation?
Oui, la norme n'existe pas. C'est normal de se demander si on est normal, parce que c'est aussi rassurant de se dire qu'on fait partie d'une team ou d'une case. Les pratiques que vous n'aimez pas, vous avez le droit de pas les aimer, en fait. Faut jamais vous forcer à faire des trucs que vous avez pas envie de faire,
C'est peut-être intéressant de savoir aussi pourquoi t'aimes pas, parce que je prends l'exemple du cunnilingus. Si j'aime pas parce que j'ai été confrontée, ça c'était pas un duel, j'ai été face à des gens.
Je t'imagine au puits du fou avec une tombe. Tu me feras un cunnilingus.
C'est ce que j'étais en train de me dire, mais vraiment.
Non mais bref,
oh là là.
Je sais pas si donc quand j'étais au Puy du Fou, c'est parce que j'ai pas été face à un intervenant assez intéressant.
Oui, tout à fait.
Ou tu vois, si parce que vraiment foncièrement j'aime pas ça. Donc je pense que la première question qu'on peut se poser aussi, quand on parle de normalité, c'est est-ce que j'ai été face à des gens vraiment qui sont bons dans ce qu'ils dans ce qu'ils font, etc. Ou est-ce que vraiment c'est juste moi, c'est pas ce que je kiffe, quoi.
Le fin mot de tout ça, c'est qu'il faut pas se forcer à faire des choses qu'on a pas envie de faire. Effectivement, on peut se poser la question de pourquoi on aime pas. Peut-être parce qu'on trouve que l'image est pas, que ça donne une mauvaise image de soi. Je pense à la fellation qui peut donner un peu une image un peu avilissante, parce que c'est aussi les images auxquelles on a été confrontés dans le porno et dans pas mal de choses, et voilà, un peu ce truc où l'homme tout puissant, la meuf qui fait un truc, c'est un peu... alors qu'en vrai c'est l'inverse qui se passe dans une fellation, c'est-à-dire que c'est quand même la personne qui est en charge de faire ce qu'elle fait qui décide, en fait. Donc il y a pas de... je pense que c'est peut-être des fois juste switcher peut-être de point de vue et essayer juste de changer ce truc et se dire ah non mais attends, en fait c'est moi qui décide. De toute façon c'est vous qui décidez. Après je pense que le plus important, si vous êtes notamment en couple ou avec quelqu'un, juste de discuter avec lui avec lui ou elle, des choses qu'on a envie de faire ou qu'on n'a pas envie de faire, est-ce qu'il y a des compromis qu'on peut trouver, parce que ça peut aussi arriver. Et puis, s'il y a des choses que vous ne vous sentez pas du tout la possibilité de faire, ne le faites pas.
Te décrédibilise de ouf en disant est-ce que je suis normale, j'aime pas ça. Dans ça, je suis nulle, mais il y a forcément des trucs que t'aimes. Et concentre-toi sur les trucs que t'aimes et focus ta sexualité sur ça plutôt que de te dire oh mon dieu, ça j'aime pas. C'est une pratique parmi un milliard de pratiques qui existent.
Ouais. C'est comme pour tout, je pense que c'est comme se concentrer sur les trucs qu'on sait pas faire alors au lieu de se concentrer sur les trucs qu'on sait faire. C'est la base de la confiance en soi.
Exactement.
Prochaine question, des conseils pour communiquer pendant l'acte sur ce qu'on a envie de faire. Comme on vous a dit au début de l'épisode, on n'est pas là en mode « ouais, on a des conseils sur ça, 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 ça ». Moi, j'avoue que c'est une question que je me suis trop longtemps posée en mode « comment t'amènes le truc, effectivement, est-ce que... »
Pour moi, il faut en parler hors acte, dans une situation qui est un peu neutre. Parce que en parler juste après l'acte, la personne à qui vous en parlez va se concentrer sur ce qu'elle n'a pas fait, en fait. Donc, potentiellement, ça peut la vexer ou il ou elle peut peut-être se dire « Ah, merde, et tout. » Enfin, si elle me parle de ça maintenant, ça veut dire que ce qu'on a fait là, ça ne lui a pas plu, en fait.
Ouais. Et puis, ça dépend du degré, je trouve, de ce que tu veux qu'il soit fait. Par exemple, si tu veux changer de position, c'est un truc où il faut que ça vienne naturellement, qu'il y ait une certaine communication. Mais si c'est, par exemple, vraiment sur technique même ou l'approche même.
Ou les fantasmes,
ça, choses que tu as envie parler, autour. Après, par exemple, c'est des trucs qui sont compliqués à faire. Si c'était avec un coup d'un soir, tu vas pas t'asseoir avec lui. Excuse-moi, est-ce qu'on peut discuter 2-3 minutes? J'aimerais t'expliquer tout mon mood board
fantasmes.
T'as
raison. Non, t'as raison.
C'est un peu galère. Mais soit pendant... Enfin, en fait, je sais pas, je me dis, je visualise un peu le truc. Et pendant, tu peux glisser
pendant.
Des trucs.
Ouais, tu peux... Honnêtement, tu peux le dire pendant. Faut juste que ce soit fait de manière... Enfin, faut juste que ce soit fait correctement.
Tu prends une voix un peu suave.
Ouais, mais il faut aussi le dire assez clairement, avec sa voix. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des moments un peu gênants où quelqu'un te dit un truc ou tu dis un truc à quelqu'un et puis il fait quoi ?
Qu'est-ce que tu dis ?
J'ai une vague de gêne.
Ouais, voilà.
Excuse-moi, mais t'as dit quoi ?
Ouais, c'est très très gênant. Et dès que j'y repense encore, tu vois, ce truc là, j'y repense encore, je me dis pourquoi j'ai dit quoi ? C'est moi qui ai dit quoi parce que j'ai pas entendu. Bref.
Et puis il faut oser. Genre, je pense que si tu te poses la question de comment le dire, c'est aussi est-ce que tu oses le dire de manière franche ? Enfin, tu vas pas vexer un mec ou tu vas pas le faire fuir si tu dis bah écoute, est-ce qu'on peut changer de position ? Est-ce que tu peux me faire ça ou ça ou ça ? Faut vraiment que toi tu sois. Enfin, que tu campes sur tes positions et que tu te dises mais j'ai le droit. En fait, moi, très longtemps, j'ai pas osé le faire ou pendant l'acte parce que. Je me disais, mais je vais pas arriver comme ça à dire « Excuse-moi, tu peux changer ça ? Est-ce que tu peux faire ça ?»
Mais après, c'est une question
de
ton.
Voilà, c'est une question de confiance en soi aussi. Où tu te dis « Est-ce que là, je prends ma place et je suis maîtresse ?»
Est-ce que je suis valide ? Est-ce que j'ai... Enfin oui,
mais t'es maîtresse de l'acte sexuel aussi, parce que souvent, dans notre société encore plus, c'est, on a l'image de l'homme qui conduit, tu vois.
C'est vrai, ouais.
Et nous, en fait, aussi, en tant
que... les femmes, elles sont nulles au volant.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais nous aussi, et on peut aussi dire ce qu'on veut. C'est à deux, c'est 50-50, et on n'ose pas assez, je pense. Et il faut oser. Oser dire vos fantasmes et ce que vous voulez faire pendant, après, quand vous voulez, mais dites-le. Et j'ai regardé, toi aussi, Lisa, je sais pas si Juliette, t'as regardé la série Drôle sur Netflix. Et il y a une scène, à un moment, ça m'a fait trop réfléchir. T'as la meuf, ils couchent ensemble.
Oui.
Et la meuf, elle prend sa main et elle touche son clito, elle, pendant l'acte. Et le... Elle rigole.
Je dis, non, non.
Mais si, je la vois, ce diable, il pétille.
C'est vrai. C'est vrai.
Et du coup, le mec, il est super perturbé pendant l'acte à cause de ça. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Et c'est parce qu'en tant que meuf, tu t'oses pas aussi.
On te dit pas, c'est ok de formuler tes envies.
Ouais, c'est ça. Et il capte.
Cette pratique-là, en fait, qui pourtant est quand même un sacré paquet de meufs.
Et très sympa.
Ouais.
Et effectivement, très sympa. Mais qui est, tu vois, genre un sacré paquet de meufs à faire. Et j'ai bien aimé comment il a réagi, comment ils ont réagi tous les deux dans la série. Parce que elle se braque pas du tout
quand il lui dit
ça. Après, vous allez voir, vous braquer.
Regardez cette série, elle est sympa au passage.
Très bien, elle a été annulée par Netflix, mais elle est très bien.
Oui, putain, j'ai vu ça.
Trop triste.
Et sinon, c'était comment votre première fois? Allez, une petite. Attends,
allez,
on n'a pas trinqué la première fois.
Mais à chaque fois qu'elle pose des questions cheloues, je finis par beige.
Donc, moi, j'ai fait ma première fois quand j'avais 17 ans.
Quoi?
Rappelons-nous qu'il n'y a pas d'âge. Il y a une moyenne, mais il y a des moyennes dans tout.
Oui.
Moi, je l'ai fait quand j'étais prête. Avant, j'étais avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui j'ai fait ma première fois, avec qui je n'étais pas prête à faire ça. Donc voilà, après, donc du coup voilà, C'était pas incroyable, c'était sa première fois lui aussi.
Une petite note sur 10, j'aime bien avoir des notes sur 10.
Non, franchement, bah de toute façon, il écoutera pas, hein. Je mettrais genre un 3. Bah c'était, alors, ça il aimerait bien si jamais il écoute, mais c'était quelqu'un qui avait un gros membre, on va dire. Et du coup, pour la première
un
fois...
Un énorme pénis.
Une beute.
J'ai, depuis ce temps-là, donc j'avais 17 ans, je trouve qu'il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait, ma première fois, ça, c'était pas obligé d'être ça. Parce que c'est pas ce qui m'a le plus... transcender,
ouais.
Et je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que j'ai pu faire avant qui n'impliquaient pas une pénétration, qui vraiment ont un peu rock my world, tu vois, vraiment, qui était un peu sensationnel, et ça c'était cool, et du coup maintenant je définis, donc ça c'est ma première fois vraiment telle qu'on l'entend dans le terme clinique, mais j'ai eu des premières fois, j'ai eu une première fois ou plusieurs avant avec du coup la personne avec qui j'étais avant.
OK.
Et j'avais à peu près 16 ans et tout. C'était quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté que moi. Donc il y avait un peu ce truc où je me laissais un peu faire quoi.
Ma mère m'avait un peu mis le cadre en me disant juste écoute, t'es pas obligé d'être folle amoureuse, ça pas c'est pas forcément l'homme de ta vie, mais elle m'avait dit juste sois consentante sur le moment. Elle m'avait pas du tout dit écoute, parce que je trouve que ça met une pression en même temps de dire à quelqu'un il faut que tu sois sûre.
Moi je l'ai jamais vécu comme ça, mais effectivement le fait de devoir être amoureuse c'était quand même un paramètre en plus.
Bah tu vois, et moi elle m'avait juste dit écoute, un jour peut-être que tu vas avoir enfin quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et tu vas te dire bah là c'est cette personne là, et je m'entends bien. Elle m'a dit juste il faut que tu aies confiance en cette personne, que sur le moment tu sois d'accord et que ça se passe comme ça. Donc j'avais pas cette angoisse de me dire il faut que je sois folle amoureuse de quelqu'un pour le faire, et je l'ai fait. Bah c'est ce que je racontais dans le podcast de la semaine dernière. Avec un de mes super potes que j'avais depuis le collège, c'était pas du tout en couple, on n'était pas du tout ensemble, et j'en garde un très bon souvenir, parce que souvent les gens qui disent ça, après ils disent ouais je regrette parce que ceci cela, moi je regrette absolument pas, c'était une personne en qui j'avais confiance, ça s'est très bien passé,
cool.
J'ai pas du tout, enfin il y a pas de truc ouf, c'est juste on se voyait et puis voilà un jour ça s'est passé. Et non, et après ce qui était cool c'est que je pense le fait qu'on soit pas en couple, il me parlait beaucoup. Ouais. Il m'a très vite dit, tu te sens comment, ça va, t'es prête,
c'est quoi, vache.
Et on en a très vite parlé sur le rapport que lui il avait à sa sexualité, moi ma sexualité, machin, enfin bref. Et du coup ça a duré, c'est la première personne avec qui j'ai construit ma sexualité sur les 3 ans qui ont suivi. Et j'avais 16 ans et demi, c'était c'était en terminale, j'étais en terminale. Et en fait après ça m'a quand même laissé, enfin ça m'a créé une très bonne image de ma propre sexualité.
Ça c'est parce très, que, très
cool. C'est rare. Hein,
ouais, putain, parce que je suis restée longtemps avec lui. Et même si on n'était pas en couple, c'est plus sur le côté couple que ça m'a fait du mal sentimentalement. Mais sur le côté sexualité, il m'a toujours respectée. Et ça a toujours été beaucoup de communication. Enfin, ça m'a construit une assez bonne image de moi et de ma sexualité. Donc merci à toi si tu passes par là.
Merci.
Oh, la vache.
Et toi, Lisa?
Moi je l'ai fait jeune, je regrette pas là où je l'ai fait parce que j'étais en couple pas depuis longtemps, ça faisait un mois, on est resté longtemps ensemble donc ça va. Je l'ai fait en seconde, j'ai aucun souvenir que, encore une fois, mes parents m'en aient parlé ou pas avant, comment est-ce qu'ils ont abordé le sujet, machin. Je pense que ma mère elle s'en doutait parce que c'est elle qui me déposait chez lui, donc je pense qu'elle s'en doutait un peu que...
C'est
comme... genre, je rentrais chez moi, j'avais plus d'eyeliner...
les cheveux comme ça, mais si je te jure, je révisais, maman.
C'est comme ça, là. L'envers. Enfin bon, il y a des signes qui... Voilà, c'est pas trompeur, tu vois.
Des déglingué.
Exactement. Et la première fois en tant que telle, c'était minable. Désolée.
Ce terme-là, waouh.
Ah, c'était nul. C'était zéro. Moi, je m'en souviens pas.
C'était la question que je voulais te poser, Pauline. C'était si t'avais pris du plaisir. Parce que moi, j'en ai pas pris.
Ouais, non. Ah non, par contre, non, c'était pas du plaisir. C'était plus une expérience. Moi, je me suis sentie. Moi, j'ai eu mal, j'ai saigné, etc. Je me suis sentie. C'était pas un mauvais moment ou un excellent moment. Vu que c'était fait de manière très calme. Et avec beaucoup de communication,
c'est cool, hein.
Autour. C'était pas kiffant, mais après, genre, vraiment, je me revois à côté en mode ça va toi ? Ouais, toi ? Ouais. C'était comment ? Ça va ? Ouais.
Ah, c'est cool !
Mais oui,
et après, ça a repris. Et au début.
J'ai eu aucune question comme ça. Hein.
Ah ouais ? Et au début, je me rappelle,
non plus.
Je lui avais dit mais je comprends pas et tout. Enfin, je kiffe pas. Parce qu'on en parle pas souvent, mais les premières fois que tu couches avec quelqu'un, tu kiffes
c'est
pas.
C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est pas un moment où tu prends du plaisir en fait.
Non. Et le temps que ça se fasse, que tu comprennes ton corps, que tu comprennes ce que c'est que d'avoir envie de coucher avec quelqu'un, que tu prennes du plaisir et tout, c'est long. Mmh. Et je me rappelle qu'on en parlait beaucoup parce que les premières fois, j'étais, je sais pas si j'ai envie ou pas envie, je sais pas si je kiffe. Ouais. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, au pire, on fait juste des prélits et des trucs et ça reviendra et tout. Et après, au final, ça s'est fait. Mais non, au début, tu kiffes pas.
Je te rejoins un peu sur ce que tu disais par rapport au terme clinique, justement, de première fois, sous-entendu pénétration, machin. Moi, je relis pas ma première fois, donc terme clinique, à ma première fois avec mon copain qui est venu juste après. Où là, genre vraiment.
Du vrai plaisir, en fait.
Bah ouais, non, mais c'est ça, du vrai kiff. Et puis la communication, comme ce que t'as eu, qui va tout autour. Et puis ouais, là, tu prends ton pied, quoi, vraiment.
Puis je trouve, enfin. En parlant, j'essaie de faire un peu l'introspection dessus, mais je pense qu'aussi, dans les premières fois où j'ai fait du sexe avec quelqu'un, il y avait aussi une forme de tendresse qui était très présente. Mm. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti pour ma première fois, cette tendresse-là.
Ouais, pas tendresse, non.
Alors que c'était pour autant quelqu'un avec qui j'étais en couple. Mm-hmm. Et voilà, je le blâme pas, on se blâme pas, c'est pas le but en fait. Mais il y avait un truc vachement un peu plus de fusion avec la personne d'avant, où vraiment il y avait un truc un peu chimique qui se passait, et c'était nettement plus agréable aussi pour ça en fait.
Ah, mais parce que de toute façon on parle pas assez, je pense, de la connexion sexuelle qu'il peut avoir. On se dit souvent ouais, cette personne ça marche pas et tout, mais moi je pense qu'il y a des vraies connexions sexuelles avec les gens.
C'est
des gens avec qui t'es fait pour coucher, d'autres avec qui t'es pas fait pour coucher.
Carrément.
Mais t'avais fini ta première fois?
Bah ouais, en soi c'était pas ouf, et j'ai plus kiffé les fois d'après avec quelqu'un d'autre, quoi.
Parce que c'était plus agréable en fait.
Et disclaimer aussi, les libellules, on parle de point de vue féminin. Désolé les gars qui nous écoutent, pour des raisons évidentes, on n'a pas de buteux.
Vous parlez du fait qu'on est toutes des meufs. J'ai une question par rapport à ça. Entreprendre les choses quand on est une meuf, le premier move, on va dire, vous, comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes force de proposition? Après, je vais être en couple depuis un moment, mais justement, ça peut être aussi intéressant d'avoir ton point de vue. Et Pauline aussi, en tant que femme célibatante. Et moi aussi, mais comme je pose la question, je n'y réponds pas.
C'est aussi simple.
Sachant que les mecs ont une certaine pression, enfin tu sais, on met un peu dans la tête,
dans l'idée de faire le premier move et tout. Moi ça n'a jamais été un problème de faire le premier pas, honnêtement.
Ah ouais?
Ah non.
Moi non plus.
Ah non, aucun.
En fait, moi je vois ça comme un truc crescendo. En fait, tu vas faire un premier move, tu vas voir si la personne est réceptive. Et si elle est réceptive, tu retentes un peu au-dessus, et etc., etc., jusqu'à ce qu'il se passe ce qui doit se passer. C'est pas d'un
jusqu'à
coup...
Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ouais, c'est ça, c'est pas un moment tu chopes un mec et tu lui dis que vas-y, maintenant, couche ensemble. C'est un petit jeu, enfin moi je pense que, enfin pour moi en tout cas, c'est un petit jeu qui vient crescendo si t'as un mec avec qui t'as envie de coucher. C'est des petits pas, des petits pas, pas. C'est que c'est pas en mode, faut pas se dire, ouais, d'un coup tu prends la tangente et tu vas voir un mec, tu dis viens, on couche ensemble tout de suite. Faut laisser le jeu de séduction. Je trouve que c'est bien aussi, une fois que t'as accouché avec quelqu'un, de savoir qu'il y a eu un petit jeu de séduction.
Oui.
Le moment où ça monte et tout, machin, faut appuyer sur ça.
Ouais,
je vous en pensez.
Oui, je suis entièrement d'accord. Mais j'ai du mal quand même à y aller. J'ai trop peur à un moment donné de me prendre un râteau. Justement, ce que tu disais, d'alimenter un peu la tension sexuelle, machin, c'est cool. Mais le moment de dire allez hop là, tu vois, enfin bon, ce geste n'est pas forcément bien, mais moi j'ai trop, enfin ça dépend quelle relation j'ai avec la personne.
Bah, faut avoir
mon ex, ça
allait, en fait.
Enfin pas mon ex, l'autre d'avant, c'était ok. Celui d'avant, bof.
Je sais pas, moi j'ai le sentiment que c'est un truc que j'ai presque fait de manière agressive en fait.
Enfin... je t'agresse les hommes, elle en mode baise-moi.
non, mais je sais pas, je trouve que autant effectivement, j'en ai discuté avec un pote la dernière fois. Je disais, mais que j'ai vu un podcast où en gros c'était une meuf qui disait qu'elle avait une de ses copines qui disait carrément à des mecs en soirée, bah viens, je te trouve beau, viens, on couche ensemble. Et qu'en fait, la plupart du temps, les mecs étaient là, genre. Et en fait, des fois, c'était
meuf,
trop.
Moi, j'ai essayé ça.
Mais
bah,
oui,
fois,
je sais, mais en fait, c'est ça le truc qui est ouf, c'est que si t'es trop dans vraiment l'initiative de viens, on fait quelque chose, le fait de le verbaliser, c'est peut-être ça fait flipper les gens.
Ouais.
Alors que ça se trouve, si juste. Tu
faut
tentes un truc un peu physique,
oui.
Ça se trouve c'est beaucoup plus acceptable et ça fait un peu moins peur, parce que je pense qu'il y a aussi une pression derrière de elle attend quelque chose de... Non mais c'est vrai, tu vois, un truc un peu fébrile où elle attend quelque chose de moi d'incroyable, alors que juste si tu fais un move aussi explicite à quelqu'un, c'est forcément que t'as envie de lui ou d'elle. Mais pas que t'attends genre que ce soit le meilleur sexe de ta vie, en fait.
Bah, et puis il faut remettre les trucs dans leur contexte. Si t'es avec un mec que tu connais depuis une journée, forcément ça va pas forcément venir d'un coup, ça dépend qui. Mais si t'es, enfin, je pense qu'il faut croire en son intuition. à toutes les meufs, écoutez-moi bien, fermez les yeux, c'est à mon tour, connectez-vous à votre intuition. Non mais c'est vrai, on sait au fond de nous, on sait si la personne elle a envie de nous ou pas, ça se voit, c'est des choses, c'est physique, c'est chimique, c'est ce que tu veux, tu te rends compte si la personne elle veut te pécho ou pas. Au bout d'un moment, t'as forcément des signes, c'est pas un mec qui est assis en bas de ta rue au PMU, tu lui sautes dessus.
Non.
Logiquement, il y a un contexte externe qui
fait
que plus ou moins les choses elles arrivent. Et c'est à ce moment-là de se dire, ok ma grande, aie confiance en toi, t'es
c'est
une bête de meuf,
ça.
Tu peux y aller.
C'est juste une question de
et
confiance.
Et le mec qui est chez toi en train de te pécho, ça m'étonnerait qu'il parte à partir du moment où t'essayes de le tripoter un peu. Hein.
Ouais. Si je suis la personne à initier le premier move, ça veut dire que je peux pas me rétracter.
Et c'est ça, c'est que je pense en fait, c'est exactement ce que tu dis dans le sens où avant de se poser cette question de j'ai peur de ceci, de cela, c'est de te demander où toi, est-ce que toi t'as envie? Genre avant toute chose, qu'est-ce que tu
même
veux?
Si t'as envie, des fois tu peux changer.
Voilà, c'est ça.
Moi, c'est ça.
Et
qui
si
fait
tu
peur.
Veux. Ouais. Mais oui, mais justement, mais c'est déjà être honnête avec toi de te dire je crois que j'ai envie, j'en suis
c'est
pas sûre à 100%, j'aimerais initier un truc.
On va voir.
Mais peut-être que je suis
aussi
pas prête.
Bien, ça me plaît, aussi c'est bien, ça. J'ai pas trop envie. Et à ce moment-là, c'est aussi, on fait une petite parenthèse, mais c'est aussi ok d'arrêter un acte à n'importe quel moment.
Oui.
On ne doit rien à personne. Et c'est un truc que même moi, dans ma relation de 12 ans, je suis encore en train d'essayer de déconstruire de... c'est pas obligé d'aller au bout, on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de... Et des fois, on est juste mal à l'aise, on a juste envie d'arrêter, et c'est très ok.
Un abonné nous a demandé, avez-vous des sextoys? Si oui, est-ce que vous les utilisez régulièrement? Est-ce que ça pose problème dans une relation d'en utiliser?
Je vois que tous les regards se tournent vers moi.
Alors
deux contextes.
Est-ce qu'on a le droit de raconter une story time ou pas?
Je suis dans une... Oui, bah on peut.
Mais
hein.
Il faut...
Non, mais
moi,
sur
ce
toi.
Qui m'intéresse...
Oui, vas-y, je sais que j'ai déjà...
Un jour, Juliette, elle nous a sorti un panier de sextoys, ouais.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai des potes qui font... Quand il y a des gens qui savent pas trop, je me dis, tiens, si je montrais ce qu'il y avait, ce qu'il y a dans ma boîte qui maintenant est devenue...
Ton panier.
Surprise. Une boîte qui est devenue trop petite, parce qu'il y en a trop.
La vache. Alors, quel est votre rapport au sextoy, en règle générale? Parce que je sais que toutes les deux, vous avez deux avis. Enfin, pas deux avis, parce qu'en soi, vous vous rejoignez, mais deux points de vue différents, en tout cas, par rapport à ça.
Alors...
J'ai pas aimé ta blague.
Moi, du coup... de mon côté, moi, j'ai acheté mon premier sextoy avec une de mes potes. Enfin, plusieurs de mes potes. C'est une de nos copines qui en avait déjà un qui nous a accompagnés dans un dans un sex shop ou tu sais les love stores, les trucs comme ça là, c'est et du coup elle nous a dit, elle nous a conseillé le même qu'elle.
Elle est donc
j'ai trop d'imaginer les gens qui sont en train d'écouter les sextoys. Miaou.
C'est des bruitages que j'ai rajouté
dans
mon montage.
Pardon.
Attends, je reprends.
Ouais. Love Store.
Que du coup, c'est une de mes copines qui nous a accompagnées dans un sex shop. Enfin voilà. Pas un truc glauque, hein, maintenant, de toute façon, il existe des sex shops qui sont pas du tout stressants ni angoissants. C'est pas, il fait pas noir, il n'y a pas de la musique chelou, c'est très clair. Il y a des gens qui sont là pour vous aider en plus à choisir, donc c'est très pratique. Et on s'est toutes retrouvées à acheter le même. Et donc, moi, j'avais jamais utilisé que ces stocks de ma vie, jamais. J'étais toujours débrouillée autrement. Et c'était assez dingo. La première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, mais waouh. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça te donne aussi une autre approche de la masturbation. Oui. Parce que c'est pas... Il y a un truc un peu de... un peu crescendo, ça peut aller très vite aussi en fonction de ce que tu choisis comme sextoy. Mais il y a un truc un peu de... on y va un peu au fur et à mesure, c'est un peu plus... Enfin, je trouve que quand on sait exactement comment se faire jouir, ça peut aller très vite et des fois, ça peut être très chiant.
De ouf.
Moi, ça s'est fait vraiment... j'ai pas demandé l'avis. Je me suis dit, c'est moi avec moi-même. Je vais aller m'acheter un truc parce que bah, j'ai envie. Et puis, ça me regarde au final...
Que toi.
Que moi. Honnêtement, moi, il n'y a pas eu de question de est-ce que ça pose problème ou pas. Je pense qu'il y a eu une petite angoisse un peu de se dire, mais... Bah, t'es sûre
Mais
coup,
ça lève un autre problème,
moi,
je trouve. Ça lève le truc de la masturbation au sein du couple. Enfin, je sais pas si c'est une autre question ou quoi, mais rien que le fait de se dire ta masturbation était propre, alors que le sexe à deux, c'est à deux, mais toi, ton rapport à ta sexualité, ça t'appartient.
Moi, ça a toujours été comme ça.
Et comme si ton mec
veut
se masturber, c'est sa sexualité. Genre,
pas,
c'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un que vous partagez une sexualité.
Ouais, d'ouf.
Genre, vous créez un truc ensemble, certes. Mais vous avez votre sexualité.
Vous pouvez tout partager.
Voilà, indénombrablement de celui avec qui vous la partagez. Voilà, c'est le petit...
C'est quoi toi, ton rapport au sextoy, Pauline?
Moi, alors comme j'ai dit au début du podcast, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à déconstruire beaucoup ma sexualité. J'ai jamais utilisé de sextoy, même encore maintenant, parce que je savais pas. Enfin, c'est pas que je savais... Si, je savais pas, genre, je connaissais rien à ça. Je me suis jamais dit, tiens, il faudrait que j'achète ça. J'avais pas de copine qui l'utilisait, pas de copine qui en parlait. je me renseignais pas sur le sujet et déjà je fais partie de la team pour qui la masturbation ça a été tabou très longtemps. Réussir à en parler avec des potes et tout, c'était pas du tout possible pour moi, personne autour de moi en parlait. C'était bah ta sexualité c'est justement l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toi et ton mec, t'as pas de sexualité, limite tu te masturbes quand t'es toute seule, c'est pas bien. Enfin, des grosses pensées de merde. Enfin, pas de merde, parce que voilà, il y en a plein, je pense, qui ont ça, et voilà. Et en fait, c'est en vous rencontrant, vous, notamment, et en me questionnant sur tout ça, que je me suis dit, mais en fait, il y a tellement un, comme dirait Lisa, un boulevard.
Il y a un monde, il y a un monde en
boulevard,
mais vraiment, chose
c'est à un savoir, délire, hein. À tester, à connaître. Et du coup, moi, je suis dans... J'explore en ce moment, et je me questionne sur mes peurs, sur ce que je pense, sur ma vision des choses. Et je vais sauter le pas sur ça, mais je n'ai jamais encore utilisé. Je suis OK avec moi-même. Enfin, je suis pas en mode oh, merde, la honte ou quoi, pas du tout.
Et ça ne veut pas dire qu'on est contre les sensations avec quelqu'un. Oui, avoir un sextoy, ça ne veut pas dire remplacer son mec. Vous vous doutez bien qu'un espèce de bout de silicone qui vibre, ça ne remplace pas
un être humain.
Mais non, mais c'est quand même un truc de ouf de devoir le réexpliquer.
Ce qui est cool, je trouve, c'est qu'il y a aussi, en ce moment, notamment, il y avait, je crois, Je ne suis pas jolie, chère, etc., qu'on parlait d'une marque qui commence à faire des partenariats en abordant vraiment le sextoy comme limite tu promeus un produit de beauté.
Le self-care. Ouais. C'est du self-care, c'est en fait.
Et en fait, faut le voir comme ça et je pense que...
Sur
pense
le blog, que... mes articles sextoy, ça s'appelle des articles self-care.
Toi, Lisa. Toi.
Ok.
Je te vois là dans mon angle mort.
Dans ton rétro.
Toi, c'est quoi ton rapport du coup au sextoy?
Moi, j'en avais acheté un. Le premier, j'étais assez jeune, ça va, j'avais genre 10... 19 ans,
tu crois qu'elle dire 10-12 ans, ans. Mais c'est ok, ouais. Let's go.
Je me suis découverte hyper tôt. On l'avait acheté.
T'étais avec des copines aussi?
Non, j'étais toute seule. Mais j'avais rejoint des potes après, avec mon petit sac passage du désert.
Mais qu'est-ce qui toi, tu t'étais dit, vas-y, je vais en acheter un.
En fait, j'étais pas satisfaite sexuellement dans la relation dans laquelle j'étais.
Ok.
Et du coup, on habitait à distance l'un de l'autre, et les fois où on couchait ensemble, bah, je sentais bien que moi, j'étais pas du tout satisfaite à 100% de ce qui se passait, parce qu'on était vraiment sur un schéma de coucherie classique entre un mec et une meuf de « lui, il se termine, et basta, cosy, c'est fini ». Après, on se revoyait pas pendant 2 semaines.
Vous voyez pas, mais j'ai levé les yeux au ciel.
Exactement. Donc très chiant. Du coup, je m'étais dit, bah c'est bon, je vais m'en acheter un. Donc, je m'étais procuré ce premier, un petit stylet, un truc...
Un truc pas, vibrant, du pas coup. Fou, ouais, pas, voilà, d'accord, un petit gros. Truc, histoire de vibrer, quoi.
C'est ça, ouais. Qui était pas transcendant, il faisait le taf, mais c'était pas gégène. Donc, je m'en suis reprocuré un autre un an après, de Satisfyer, du coup. Okay. Très, très sympa. Mm-hmm. Là, je recommande fois 1000 Satisfyer. Juju en parlait et c'est trop bien. Et puis Juju m'a gentiment donné un troisième sextoy, donc je suis l'heureuse propriétaire de 3 petits bouts de choux. qui sont vraiment qui me
je précise
comble.
Que les trucs que je donne je les ai pas utilisés.
Bah bien sûr.
Non
bien
mais
sûr.
Je préfère préciser effectivement.
Non, il y a vraiment l'emballage.
C'est tout à fait neuf. Voilà. Non mais c'est quand même important de le préciser.
C'est vrai. Mais du coup, non, ça a jamais été trop un truc qui me gênait de parler de sextoy, de masturbation, pardon, ou quoi que ce soit.
Je disais, c'est comme tout, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie d'une démarche de s'autoriser le plaisir aussi.
Ouais.
Et en tant que meuf, on a trop pas l'habitude de se dire, ok, on s'autorise nous aussi à avoir une sexualité épanouie, parce que comme tu disais, moi j'étais longtemps comme toi aussi, c'est que t'as des relations sexuelles avec des mecs, t'es pas forcément épanouie sur tout le truc. Mais tu dis, bah, c'est la norme, c'est comme ça que ça
dis,
fonctionne.
Bah, voilà, alors
tu vas pas chercher ailleurs.
En soi.
C'est ça, et moi je sais que quand j'étais dans des relations, j'étais bassement, je vois mon mec 3 fois par semaine. C'est ça la vie, et du coup, je suis pas allée chercher ailleurs parce que je me dis, bah, ça se trouve, enfin, je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus. Ouais. Et après, quand tu déconstruis le truc, tu dis, ah, mais si, en fait,
bah, c'est une relation de c'est se faire l'amour à soi-même au final.
Ouais, de ouf. Comment s'assurer, donc là, on va partir sur le sujet Tinder, comment s'assurer qu'un plan cul Tinder sera le bon?
Bah, tu testes.
Je pense, ouais, t'as pas de manière quand t'es en train de discuter avec un mec via Tinder, tu peux pas savoir si oui ou non ce sera un bon coup.
C'est impossible de savoir. C'est le bon, est-ce que c'est le bon genre un bon coup ou le bon genre la bonne personne dans ta vie?
Le bon coup.
Le bon coup.
Ouais.
Oula.
Bah là c'est FAQ.
C'est très 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 compliqué de savoir parce que même généralement les gens qui te parlent de moi je suis trop fort, moi les meufs elles sont fontaines à chaque fois et tout machin. Moi j'ai des potes à qui c'est arrivé et tout, des mecs qui leur apportaient des trucs comme ça. Au bout de 2 minutes, c'était terminé. Mais c'est pas possible, en fait. Je veux dire, en termes d'alchimie, tu peux pas savoir, via un écran, si t'auras une alchimie avec quelqu'un.
Tu peux avoir une idée, à la limite, quand vous êtes en face-à-face, quel premier date, machin, vous discutez. Tu peux avoir une petite idée, mais tu pourras jamais être sûre tant que t'es pas allée au fourneau.
J'ai comment réussir à lâcher prise? En ayant confiance en soi. Bah voilà, oui. C'est tout.
Mais de toute façon, le problème de la confiance en soi, c'est le problème général de tout, que ce soit la sexualité, que ce soit tout. C'est réussir à savoir ce que tu veux, où tu veux aller, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et ça, ça passe que par te découvrir toi. Soit découvrir ta sexualité, te renseigner sur que ce soit tes traumas. C'est con parce qu'on en parle tout le temps en mode « allez chercher vos traumatismes ». Mais c'est super important de savoir. Aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est super important d'aller... Enfin, nous, on est allés l'autre jour à Passage du Désir. Il y a un rayon livre où il y a plein de trucs maintenant. Il y a des dizaines de livres qui existent sur la sexualité, sur tout ça.
Aux éditions La Musardine qui sont très bien.
Ouais, c'est ça. Nous, on en parle tout le temps du conte Amal Tahir qui parle de sexualité de manière méga décomplexée. C'est une ancienne sage-femme, pardon, etc. Et je pense que c'est en vous cultivant et en testant aussi. Tester des choses. Pas forcément en allant vous taper des mecs dans la vraie vie, si vous voulez, mais même à travers la masturbation, à travers vos fantasmes, en réapprenant à vous faire kiffer vous-même, en fait. Et je pense que c'est le seul truc qui va te donner ensuite envie de lâcher prise. Parce que tu vas avoir tellement confiance en toi que tu vas être en mode, c'est pas grave, juste le sexe, c'est le sexe.
Je trouve qu'il faut aussi réussir à sortir de l'image de son corps, aussi. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup ce truc où, comme dans les fausses... Enfin, faut aussi pas oublier avec quelles images on est construite. On a déjà parlé du porno, on repart du porno. Le porno, c'est quand même des gens qui baisent, en plein jour, des meufs qui sont quand même extrêmement bien foutues, voilà, en termes de... Ça veut dire qu'il n'y a pas de plis, il n'y a pas de poils, il n'y a rien de tout ça. Et en fait, on le redit, le porno, c'est pas la vraie vie. Ça veut aussi dire que ces gens-là, ce sont des acteurs, ça veut dire qu'ils sont préparés pour la caméra. Et quand tu fais l'amour, tu n'es pas prêt pour la caméra, puisqu'en fait, il n'y a pas de caméra.
Et puis, tu ne poses pas les mêmes questions, en plus. À partir du moment où tu es en train de relationner avec quelqu'un, tu n'es pas en train... Enfin, l'autre personne qui est en face, là où toi, tu vas avoir tes complexes de, je sais pas, là, je vais avoir un bourrelet, ou là, je vais avoir des poils, ou j'en sais rien. L'autre personne en face, elle ne va pas du tout se poser les mêmes questions de... ah, mais attends, si elle se met dans cet angle-là, on ne va pas aller appuyer sur ton bourrelet, quoi. Enfin, ça,
et si c'est le cas, j'espère que vous partirez. Si quelqu'un commence à vous dire que quand vous êtes plié dans cette position-là, alors que potentiellement c'est quelqu'un qui vous a plié dans cette position-là,
comme un tacos. On parle de la
journée. Mais non, mais je pense que nous, enfin pendant ce moment-là, on a autre chose à penser que son corps, parce que je pense que tu peux pas lâcher prise de ton corps si t'es toujours focus en te disant genre non mais attends là. Là, ça va me faire un bourrelet, ou là, j'ai des seins qui bougent.
C'est comme ça que tu passes par un bon moment,
c'est ça, et puis... Mais bien sûr, comment tu veux atteindre l'orgasme en étant comme ça? Ou même juste du plaisir de base.
Même savoir aussi physiologiquement ce qui te convient, ce qui te convient pas. La confiance en soi, ça délie vraiment 80% des problèmes qu'on a dans notre vie, que ce soit en allant chercher tes traumatismes, en reprenant le dessus sur tout ça. Et je trouve que c'est super important. Et dans la sexualité, faut aussi se poser la question, si t'arrives vraiment pas à lâcher prise, est-ce que t'as un bon partenaire en face de toi? Parce que souvent on se remet la faute dessus en se disant il faut que moi je comprenne comment faire mieux, comment lâcher prise, comment être mieux dans mon ça. Mais est-ce qu'en face de toi t'as quelqu'un qui te valorise, qui te laisse t'exprimer, qui te laisse prendre ta place?
C'est t'as beaucoup aussi, la charge mentale, toi, toute seule, de ta sexualité. Généralement, t'as la charge mentale de ta sexualité et de celle de l'autre.
C'est ça, c'est 50-50. Faut être à l'aise. Oui, c'est bien de lâcher prise, mais est-ce que si tu te poses cette question, t'as quelqu'un qui t'aide à lâcher prise?
Question.
J'ai le droit de kiffer. J'ai le droit de.
Oui, s'autoriser en fait le fait d'avoir du plaisir.
Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent pas à juste kiffer leur vie, que ce soit sexuellement ou dans d'autres, dans d'autres thématiques. Mais encore plus sexuellement, t'as une espèce, pas de culpabilité, mais. Un espèce de truc chelou où tu te dis...
Productif, oui, il faut être productif.
Ouais, c'est ça. Tu dois... Et puis, tu te concentres tellement pour faire kiffer ton partenaire que tu te dis, est-ce que moi, je lâche prise vraiment Et en fait, t'as toute cette charge mentale, comme tu disais, derrière. Et ouais, et du coup, c'est super dur de lâcher prise. Et en fait, ça s'apprend petit à petit. Et plus tu rencontres les bons partenaires, plus tu te rends compte que ça fusionne et ça s'implique super facilement. Mais pour ça, faut... Enfin, je dis pas faut se taper à terre entière, mais presque. faut tester, en fait. Faut tester avec ton partenaire.
Je pense que c'est 50-50 partenaires et toi-même. Enfin, c'est moi, ça, c'est un peu le sentiment que ça me donne, en fait. Je pense que c'est aussi beaucoup, beaucoup avec soi-même. Enfin, on parlait tout à l'heure de la masturbation et de la manière de ritualiser un peu le truc. Peut-être qu'aussi, une forme de rituel, c'est se mettre un peu des jolis sous-vêtements, un peu se regarder dans le miroir.
Ouais,
complètement ça. Un peu une espèce de mise en scène de soi-même, de... il faut que je me trouve genre ultra sexy, en fait. Parce que même si aujourd'hui, je ne couche avec personne à part moi-même, bah, j'ai quand même le droit et potentiellement l'envie d'être un peu sexy, un peu belle. Enfin, tu vois.
Mais moi, je recommande tellement à toutes les meufs qui nous écoutent le livre d'Amal Tahir sur réveiller sa godesse intérieure, ça s'appelle. Et c'est un livre qui, moi, m'a trop changé la vie et la vision de ma sexualité. En fait, elle explique que ce soit ton passé, ton présent, ton futur, ta vision de ta sexualité, comment réapprendre à te faire l'amour à toi-même, tes codes sexuels, etc. Ça peut être hard parce que bah, ça va chercher un peu dans les profondeurs. Mais franchement, je le recommande à plein de meufs parce que moi, il m'a trop sauvée. Et ça peut trop aider, comme tu dis, de recréer un rituel de toi, ce qui te fait plaisir, toi, redécouvrir ton corps. Et pas attendre qu'un mec ou qu'une meuf te touche pour t'accorder du toucher, du plaisir.
Oui, du plaisir,
etc.
On a pas mal parlé porno. Pour sortir du porno classique, une des choses que je recommande le plus, d'abord aux copines, ensuite à tout le monde, c'est le porno audio. Parce que ça implique de... Ça,
moi j'ai essayé Vox, comme tu m'as dit.
Ça révolutionne ta life. Moi ça a révolutionné ma vie. Hein. Vraiment. Enfin après, voilà, on est d'accord. De toute façon, là on est entre nous. De toute manière, on n'a pas toutes vécu la même chose par rapport notamment au porno audio. Donc je recommande Vox, Colette se confesse... la plateforme Femtasy aussi qui
j'ai les suivi sur Insta aussi, moi je les suis sur Insta, ouais. J'adore.
Si vous êtes bilingue, il y a Deepsea Stories aussi qui est très bien, qui pareil offre des à la fois soit des histoires, soit quelqu'un qui te parle, homme ou femme, pour du coup te donner du plaisir. C'est hyper cool parce que ça fait appel à l'imagination. C'est hyper safe. Je compte même pas le nombre de fois où ils te disent que t'es incroyable et que t'es sublime et que t'es la plus belle personne qu'ils ont vue de leur vie. C'est hyper valorisant. Et ce qui ne gâche rien, c'est que les mecs, enfin, quand on est hétérosexuel, enfin, pour les hétérosexuels, c'est que les mecs ont des voix incroyables et on les aime beaucoup. Voilà, c'est ça ma recommandation.
Moi, du coup, ça va être, je l'ai dit, redit, c'est Amal Tahir, c'est la seule et l'unique. Livre, podcast ou Insta. C'est une meuf géniale, enfin allez la suivre, c'est tout, allez acheter ses livres et allez écouter ses podcasts, ça change la vie. Et toi Lisa?
Moi j'ai déjà la godesse intérieure donc dont t'as parlé, Pauline, qui est très sympa, qui m'a fait chouiner mais qui est sympa.
Elle avait dit que c'était deep.
Oui, c'est très très deep, mais il est très bien. Et là je me suis acheté un autre livre qui s'appelle Comment coucher avec un homme, on en apprend tous les jours, et qui est très sympa, que je recommande, où bref ça apprend plein de choses, ça traite de plein de sujets différents, pas que... vraiment comment coucher avec un garçon, parce que
le
ça,
vif,
voilà,
du sujet.
Voilà, non, ça passe par plein de choses, même ça parle de maladies sexuellement transmissibles, de vaginisme, etc. Et c'est très très cool.
Faut aller fouiller, faut se dire, est-ce qu'il y a un truc qui te pose un problème, est-ce que par exemple tu te dis, est-ce que j'ai besoin de me renseigner sur ceci, cela, et aller chercher des podcasts, des vidéos YouTube, des influenceuses, des livres. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des livres, Forum du Livre partout, Passage du Désir, sur tout et rien maintenant. Enfin, il y a vraiment tous les sujets abordés. Donc, allez vous faire une bibliothèque de cul.
Vous pouvez aussi lire des blogs. Je fais de l'autopromo, c'est l'instant autopromo.
Ouais, allez aussi, Juliette.
Si vous vous demandez quel sextoy utiliser, il y a plusieurs articles sextoy sur mon blog. C'est juliettekitch.com.
Allez voir.
Allez la suivre, c'est la meilleure influenceuse de Rennes, de France.
Du monde.
Elle mérite un million.
N'importe quoi.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est des sujets qui sont abordés régulièrement, donc si jamais ça vous intéresse, c'est disponible et c'est gratuit.
Merci en tout cas à toutes les deux.
Merci
et à
beaucoup
tout le monde
pour cette conversation.
Et à vous les auditeurs de nous avoir écoutés débattre sur la sexualité. On espère que cet épisode va vous plaire et puis on se retrouve très vite. Bisous.
Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.